Je vous propose que nous commencions. Je vous prie de m'excuser pour ce léger retard dû à, c'est très parisien, un petit problème de circulation dans les rues de Paris. Je voudrais commencer par remercier Catherine Clément et toute l'équipe de l'Université Populaire pour cette invitation. Je suis absolument ravie de venir ici, maintenant, vous parler de Martin Luther King et de ce que j'espère être un enseignement que vous emporterez avec vous. En tout cas, c'est mon ambition pour ce soir. Donc, je vais parler pendant 50 minutes à peu près, et puis ensuite, nous engagerons une conversation, si vous voulez, et je répondrai très volontiers à vos questions. Il y a un lieu commun qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Celui selon lequel nous vivons une époque particulièrement troublée. Nous traversons des tempêtes qui n'ont jamais été auparavant traversées et rencontrées par l'humanité. L'histoire est bonne fille, elle tolère notre amnésie, et parfois l'ingratitude des contemporains qui ensevelissent des combats, des voix, des victoires et des pensées qui pourtant ont existé avant nous, des crises qui nous ont précédées et qui peut-être mériteraient d'être observées, d'être explorées, pour nous aider à comprendre que nous, contemporains, finalement, nous n'avons rien inventé. Si on redécouvrait la parole de ceux qui nous ont précédés, peut-être pourtant, pourrions-nous entrevoir quelque chose comme une alternative et peut-être une issue à ce qui apparaît comme une très obscure obscurité. Martin Luther King est un de ces révolutionnaires dont on a coupé les griffes. On a réécrit sa vie, son propos, et on a oublié sa voix. On a même oublié, effacé, sous le brouillard de la célébration convenue et des souvenirs attendris, qu'il fut un penseur révolutionnaire. Oui, penseur révolutionnaire. J'entends par là tout d'abord penseur, c'est-à-dire un théoricien, un intellectuel, un écrivain, un agitateur d'idées et un pourfendeur des certitudes du temps. Mais c'était aussi un penseur révolutionnaire, c'est-à-dire dévoué à changer l'ordre des choses, à abattre un système corrompu par la force historique des peuples. Il pensait que les peuples étaient le moteur de l'histoire et qu'il était possible, grâce à lui, de faire advenir un monde nouveau. Non pas simplement ce petit monde étroit que l'on nomme les États-Unis d'Amérique, mais le monde entier. Comme tous les révolutionnaires, il avait pour horizon l'humanité tout entière. Mais puisqu'il faut commencer quelque part et que mon propos ce soir vise à vous faire comprendre comment la pensée de Martin Luther King peut nous aider aujourd'hui, en quoi elle est universelle, je vais tenter de procéder par méthode. Commençons donc en un lieu et parlons, puisqu'il le faut bien, des États-Unis. Je vais donc essayer de voir avec vous brièvement quelles ont été les étapes de la vie de Martin Luther King. Mais si vous me le permettez, je vais également réfléchir à la force de sa pensée en faisant quelques incursions dans la philosophie et la réflexion théorique qui sous-tend les révolutions et les pensées de la révolution. Car en effet, si on accepte l'idée qu'un prophète comme un révolutionnaire dise l'inaudible, et qu'ils promettent l'impensable, c'est-à-dire qu'un autre monde est possible, il faut comprendre peut-être que la grande folie de Martin Luther King fut de proposer une révolution qui soit fondée sur la non-violence, qui ait comme principe absolu une politique de l'amour, qui va être mon fil conducteur ce soir, dans le pays qui est peut-être l'un des plus violents au monde, dans un pays qui a considéré, depuis qu'en 1619, les premiers esclaves noirs ont été débarqués des cales des bateaux venant d'Afrique sur les côtes de Nouvelle-Angleterre, qui depuis 1619 ne cesse de violenter le corps noir et de considérer que le martyre de ce dernier est finalement quelque chose qui peut appartenir à l'espace public. Depuis lors, il n'est qu'encore aujourd'hui à ouvrir nos télévisions pour voir ce qui se passe dans les villes américaines. Eh bien, il a proposé justement, dans ce creuset de la violence, de changer le système, de mettre à bas cet esprit américain par la non-violence et par l'amour. C'est donc une folie, d'une certaine façon. Et la folie, c'est peut-être l'autre nom de la Révolution. L'arme de Martin Luther King, c'est donc le premier point que je voudrais que nous établissions ensemble, c'est que son arme, celle qui parvint un temps à désamorcer l'Amérique, est une politique de l'amour qui, jusqu'à aujourd'hui, montre sa pertinence et son universalité. Il faut rappeler peut-être, même si vous le savez certainement, quelle est l'extraordinaire révolution réalisée par les Noirs américains dans les années 60, qui ont réussi, sans jamais porter un coup de feu ou donner un coup de couteau, à transformer le pays dans lequel ils étaient opprimés depuis tant de temps, à obtenir la reconnaissance de la nation, le droit de vote et la fin de la ségrégation. Soyons parfaitement clairs, cette révolution qu'ont menée les Noirs américains, elle aurait eu lieu sans Martin Luther King. Ce n'est pas Martin Luther King qui a fait la révolution. Martin Luther King n'est pas le pionnier de cette lutte. Ce n'est pas lui qui l'a imaginé, ce n'est pas lui qui l'a pensé, ce n'est d'ailleurs pas lui qui l'a faite. Lorsque le combat commence véritablement dans cette dernière phase de ce qu'on a appelé la lutte des droits civiques, nous sommes en 1955 dans une petite ville qui s'appelle Montgomery, dans l'Alabama, l'un des endroits les plus racistes de ce Sud, qui refusent d'accepter depuis pourtant un siècle que la guerre civile les a vaincus, qu'il n'y a plus l'esclavage au Sud, qu'il n'y a plus les champs de coton, que les Noirs ne sont plus là pour courber les chines et accepter les coups de fouet. Ce Sud-là, qui n'accepte toujours pas ça, maintient les Noirs dans un état d'exclusion et d'apartheid qui n'a rien à envier à l'Afrique du Sud. En 1955, suite à la révolte d'une militante active, du nom de Rosa Parks, les Noirs de la ville décident de s'organiser pour boycotter les bus parce qu'ils en ont assez que cette compagnie de bus de la ville de Montgomery, comme partout ailleurs dans le Sud d'ailleurs, leur impose de monter par l'avant du bus pour payer leur ticket, redescendre de l'avant du bus, pour remonter par l'arrière du bus, pour éventuellement, s'il reste une place dans le fond, pouvoir s'y asseoir, à moins qu'un blanc ne voulût à ce moment-là s'asseoir, auquel cas ils devraient céder leur place. Vous connaissez cette histoire, devenue image d'Épinal. Pendant plus d'un an, les Noirs vont refuser de prendre le bus, de payer le bus, mettant évidemment en danger la santé économique de la compagnie de bus, puisque les pauvres étant les seuls à prendre le bus, et les Noirs étant principalement pauvres, ce sont les finances de la compagnie qui sont en jeu. Lorsque les premiers Noirs s'organisent, il n'y a pas de Martin Luther King. Ce sont des gens du nom de E.D. Nixon, ou même Rosa Parks, les militants de l'Association nationale pour la défense des gens de couleur, qui sont là et qui s'organisent. Les institutrices et les professeurs d'université de Montgomery qui utilisent la photocopieuse de l'université en douce la nuit pour imprimer les tracts. Simplement, on a besoin d'un visage, de quelqu'un qui incarne la lutte, qui puisse porter la parole. Et donc, on se dit, tiens, qui pourrait faire l'unanimité, ne pas être trop détesté par les Blancs? Et puis, quelqu'un dit, mais depuis quelques semaines, là, il y a un nouveau pasteur qui est arrivé en ville. C'est un jeune gars, il a 28 ans, personne ne le connaît, enfin, on le connaît un peu, parce que depuis qu'il est là, il fait parler de lui, il parle beaucoup de justice, il parle de politique, il est très éduqué, il a un doctorat, il a fait ses études universitaires au Nord. Peut-être que ce pasteur-là pourrait nous représenter. Donc, on passe un coup de fil à ce jeune homme, le révérend Martin Luther King, et on lui dit « Voulez-vous bien porter la lutte ?» La première réponse de Luther King a été de dire « Vous savez, quand vous m'avez demandé de devenir le représentant local de votre organisation des droits civiques, j'ai déjà dit non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma paroisse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme de religion, de m'occuper de mes ouailles. Le reste, c'est pas tellement mon domaine. Donnez-moi quelques années pour m'installer. » Et puis on insiste, et puis il repose le téléphone, et puis il prend sa décision, et il dit « Oui, écoutez, d'accord. » Je veux bien mener cette lutte. La raison pour laquelle je commence par ce qui est plus qu'une anecdote, disons une séquence historique inaugurale, c'est pour vous dire que Martin Luther King a été comme attrapé par l'histoire, qu'il n'a pas fait la lutte, qu'il n'ait guère besoin pour être un révolutionnaire d'être le premier qui un jour jeta la première pierre au premier soldat pour être le révolutionnaire. En l'occurrence, ce qu'il est devenu, c'est la voix. La voix de ce mouvement au sens où c'est lui qui lui a donné sa forme. Parce qu'avant de dire oui, de devenir celui qui, pendant près de 10 ans, au risque de sa vie, quasiment chacun des jours qui suivra le moment où il a dit oui, après ce coup de fil de 1955, chaque jour il sera menacé de mort, jusqu'à ce que finalement une balle ait raison de sa vie, la condition qu'il pose pour accepter, c'est que le combat fût absolument, résolument et inconditionnellement non violent, qu'il soit fondé sur l'amour. Alors je voudrais essayer de vous expliquer ce qui l'a mené à ça. Quand je dis que ça n'est pas un pionnier, c'est que ça n'est pas non plus un converti, quelqu'un qui un jour décide d'embrasser la carrière religieuse. Il est petit-fils et fils de pasteur. D'une certaine façon, il est né dans l'Église, dans cette ville de Atlanta, en Géorgie, où il existe un petit cocon pour les Noirs, bien qu'on soit dans un sud très très raciste. Un petit quartier qui est principalement une rue, qui s'appelle Mount Auburn Street, qui est une rue dans laquelle les Noirs se sont installés, ils ont développé une classe moyenne. Ils peuvent vivre, même si c'est toujours difficile d'être un Noir qui a réussi dans le Sud, parce qu'on est toujours menacé d'être puni pour cette provocation absolue. Et on a vu d'autres exemples de villages ou de quartiers noirs rasés, incendiés, pillés, vandalisés par des Blancs qui ne toléraient pas que les Noirs réussissent. Donc on est dans une espèce de prospérité extrêmement ambiguë et extrêmement fragile sur Mount Auburn Street. Néanmoins, la famille King est une famille plutôt aisée, disons de classe moyenne par rapport aux Noirs du ghetto. On vit plutôt bien chez les King. Le père est un pasteur qui a fait des études supérieures, donc Martin Luther King n'est pas très original lorsqu'il décide à 15 ans qu'il deviendra lui également pasteur et qu'il portera la parole du Christ. Et d'ailleurs, comme son père qui a changé de nom, qui s'est rebaptisé en prenant le nom de Luther suite à la voyage en Allemagne, le jeune Michael King choisit lui également d'être rebaptisé Martin Luther King, comme son père. On a donc affaire à quelqu'un qui suit des sentiers déjà préparés pour lui. Mais à un moment, évidemment, comme tous les gens dont le destin est un petit peu trop écrit à l'avance, il s'éloigne des sentiers battus. Et il s'éloigne une première fois en décidant de faire des études très poussées, d'aller faire un doctorat, ce que n'avait pas fait son père, et de partir loin, loin du sud raciste. Pour aller faire son doctorat, il part à Boston, dans ce grand nord-est des États-Unis, où il fait l'expérience de la capacité que peuvent avoir les gens de religion de critiquer la religion. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas compris, qu'il n'avait jamais découvert. Il avait un père qui était plutôt rigoriste, et pour ne pas avoir peur des mots, qui était une forme de fondamentaliste. On ne critiquait pas la Bible. Chez les King, on n'écoutait pas de musique en dansant. On était très, très sérieux, et on suivait à la lettre les Saintes Écritures. Lorsqu'il arrive à Boston, il suit l'enseignement de théologiens tout à fait pieux, tout à fait chrétiens, mais qui considèrent que l'on peut critiquer la Bible, qu'il y a des passages historiques et des passages métaphoriques, qu'il est possible de dépasser l'enseignement de Jésus, ou en tout cas de l'interpréter. Donc très vite, il découvre la charité chrétienne. C'était déjà dans son ADN, d'une certaine façon, l'idée que les pauvres comptent. Et il vient d'une famille dans laquelle ce que l'on appelait le « social gospel », ou bien l'évangélisme social, joue une part très importante. On considère chez les King que le devoir de quelqu'un qui croit en Dieu, c'est d'aider les pauvres. Que le plus faible, le plus déshérité, le plus humilié de mes voisins est celui qui compte le plus. Donc il y a déjà une fibre empathique chez King. Mais la charité, c'est quelque chose que l'on donne. La charité, l'amour du prochain, c'est une notion avec laquelle King se bagarre, parce qu'il a l'idée qu'il y a quelque chose qui est un petit peu paternaliste dans cette idée que l'on va tendre la main vers le plus faible que lui. Il fait une première lecture, il a 18 ans, qu'il bouleverse, qui le heurte, qui le met en colère et qui en même temps change pour toujours sa façon de penser, il lit Karl Marx. Alors dans les années 50, quand vous êtes un théologien, que vous avez fait le séminaire et que vous lisez Karl Marx et que plus encore vous en sortez changé, on n'est pas loin de l'hérésie. On est quand même dans la démarche intellectuelle un petit peu compliquée. Mais il y a quelque chose dans Marx qui lui parle fondamentalement, qui est l'idée que les peuples n'attendent pas qu'on leur donne la liberté, que les peuples prennent leur liberté eux-mêmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, si on réfléchit dans l'histoire des idées, Marx, de ce point de vue, n'avait rien inventé. Et d'une certaine façon, il y a une origine très américaine à cette pensée. Origine américaine qui avait d'ailleurs beaucoup influencé Martin Luther King dans ses lectures. C'est le philosophe de Nouvelle-Angleterre, qui s'appelle Henry David Thoreau, qui a très vite, au XVIIIe siècle, considéré qu'on pouvait être un citoyen américain profondément en désaccord, dans un désaccord absolu avec la politique de son gouvernement, et qu'il était du devoir de celui qui était en désaccord. En l'occurrence, Thoreau était en désaccord avec l'esclavage, en désaccord avec la guerre impériale que son pays menait contre le Mexique, et il décida d'écrire un petit traité qui deviendra une Bible pour les révolutionnaires du monde entier sur la désobéissance civile, expliquant que tout bon citoyen se devait de désobéir si les lois de son pays étaient contraires à ses convictions personnelles. Et que par conséquent, il n'était de véritable démocratie, Aristote parle de la République, que le régime dans lequel chaque citoyen considère de son devoir d'exprimer son dissentiment, son désaccord. Les Américains parlent de dissent. Je ne me reconnais pas dans cette politique que vous menez, par conséquent, je refuse d'y collaborer. C'est un devoir démocratique pour Thoreau. Et cela s'exprime selon lui par le fait de refuser de payer ses impôts. Je ne paierai pas mes impôts à un pays, à un gouvernement qui utilise mon argent pour financer un système d'esclavage dans le Sud ou pour mener des guerres avec lesquelles je suis en profond désaccord. Et il ira plus loin puisqu'il décidera d'aller vivre pendant plusieurs mois dans une cabane, dans un endroit qui s'appelle Walden, qui donnera un autre livre d'ailleurs qui peut vous intéresser, dans lequel il retrouve la nature et il s'oppose à cette société civile qui ne lui ressemble plus. Mais je dirais qu'on peut aller plus loin et on peut dire qu'avant Thoreau, avant cette origine américaine de la pensée de la révolte qui vient d'en bas, qui est au cœur de la pensée de King, il y a un penseur français qui ne se doutait pas un jour, évidemment, que son travail pourrait être associé à celui de Martin Luther King, mais je me propose de vous en faire, de vous proposer cette hypothèse d'un rapprochement entre les deux. Il s'agit d'Étienne de la Boétie, qui en 1549 a écrit « Traité sur la servitude volontaire ». À une époque où la philosophie considère que la tyrannie et l'oppression, c'est forcément un tyran, un gouvernement qui impose l'oppression sur le peuple, la Boétie, lui, comprend qu'en réalité, la raison pour laquelle certains peuples sont asservis, la raison pour laquelle il y a une contradiction fondamentale entre la nature humaine qui est d'être libre et la condition humaine qui est, dans la plupart des cas, d'être asservie, c'est que les peuples eux-mêmes consentent à être asservis. C'est que ce sont les individus eux-mêmes qui donnent aux souverains cette capacité à les opprimer en acceptant, pour toutes sortes de raisons, leur statut, leurs conditions. Et que par conséquent, on trouvait ça avant Thoreau chez la Boétie, la désobéissance civile, la révolte vient d'en bas. C'est parce que les citoyens refusent l'asservissement que les tyrans vont tomber. Un jour, lorsque je refuse cet asservissement dans lequel je suis condamné, je mets fin d'emblée ipso facto au pouvoir du tyran. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit à la pensée philosophique française, qui arrivera par des chemins de traverse intellectuelle extrêmement compliqués jusqu'à Thoreau, puis jusqu'à Marx et ensuite jusqu'à Martin Luther King, avec une médiation à laquelle je reviendrai dans très peu de temps. On voit donc d'emblée comment Martin Luther King tombe dans la politique d'une certaine façon. Il était au séminaire, il fait son doctorat de théologie et puis il lit Marx. Et Marx nous impose, même avec des détours par la philosophie, de parler de politique, de s'impliquer en politique. Or, il y a un problème fondamental pour le séminariste avec la politique, c'est que la politique, c'est violent. La politique, c'est par définition le lieu de la conflictualité. Or, Martin Luther King est avant tout un homme d'église, un homme qui répugne à toute forme de violence. Quelqu'un qui a lu et qui a été touché jusqu'au plus profond de son être par le sermon sur la montagne. Ce passage si célèbre de l'Évangile selon Matthieu, où le Christ dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu tendras l'autre joue si on te gifle sur la joue droite. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la pensée des Noirs américains, si fondamentalement chrétiens. Mais il y a un problème d'emblée avec cette pensée. Un problème que Hannah Arendt, qui est la contemporaine d'une certaine façon de Martin Luther King, soulignera lorsqu'elle écrira que l'amour chrétien et la politique ne peuvent pas aller ensemble, qui est que l'amour chrétien, c'est la capacité d'un individu à se dépasser pour toucher à une forme de sainteté, mais que les peuples ne sont jamais saints. Il peut y avoir un homme qui devient Christ, mais les hommes, dans leur ensemble, en tant que peuple, en tant que collectivité, ne peuvent pas devenir des groupes aptes, capables à la sainteté, à la justice et à l'amour. Et il y a un point où cet argument est aussi celui de Martin Luther King. Martin Luther King comprend que oui, le sermon sur la montagne, l'amour du prochain, c'est très bien, mais ça concerne un individu. Je peux, moi, en tant qu'individu, dépasser ma haine, me libérer de cette haine, de mon ressentiment, et vous aimer en retour, mais cette parole-là ne me dit rien des millions d'individus qui sont asservis, des peuples colonisés, des populations opprimées. Il faut pouvoir penser quelque chose qui apporte non pas l'émancipation d'un seul, de moi-même, mais l'émancipation des peuples, l'émancipation du collectif. Et cette solution, cette idée, cette nouvelle proposition, Martin Luther King la trouve une nouvelle fois chez quelqu'un qui est ni américain, ni chrétien, et je vais ajouter, ni blanc. Cette solution philosophique et cette métaphysique, il la trouve chez Gandhi, le Mahatma Gandhi, dont il n'est pas le premier noir à connaître le combat, mais dont il lit avidement, suite à une conférence qui est donnée dans son université, tous les travaux, toute la pensée. Il se renseigne, il va prendre les cours de certains de ses professeurs qui ont fait le voyage en Inde, comme beaucoup de noirs américains dans les années 30, et qui reviennent profondément convaincus qu'il est possible de faire une révolution non violente, selon les enseignements du Mahatma, dont le principe essentiel est la satyagraha, la quête viscérale de la vérité, qui pose qu'il est possible, sans jamais ne lever la main sur l'ennemi, même si celui-ci nous roue de coups, d'obtenir la justice. Comment ? En changeant le cœur de son adversaire. Mais surtout en comprenant une chose fondamentale, qui est que certes le mal existe, nous ne sommes pas des agneaux et nous ne sommes pas naïfs. Mais il faut comprendre que le mal, ça n'est pas celui qui me porte le coup. Le mal, c'est le système qui a fait en sorte que cet homme me porte un coup. Nous ne luttons pas contre des individus, explique Gandhi. Nous luttons contre tout un système, nous luttons contre des principes qui régissent notre société, des institutions invisibles, qui mène à l'oppression, qui mène à l'injustice, qui mène à l'inégalité, qui mène à la violence. Mais la solution pour que nous nous en sortions, c'est de mener une révolution qui soit le contraire de cette logique de violence. Et donc nous allons être là, marcher, chanter, occuper l'espace public, revendiquer, sans jamais consentir à la haine, sans jamais consentir à la violence. Gandhi n'est pas chrétien. Il connaît par cœur, bien sûr, notamment par la médiation de Tolstoï, le Sermon sur la montagne. Il a lu Marx, lui aussi. Il a lu Thoreau et il est nourri de pensées américaines. Mais il parvient avec ce concept-là, pour la première fois, à montrer qu'un peuple opprimé peut collectivement être acteur du changement social sans la violence. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Récapitulons, nous avons au début des années 50 un jeune Martin Luther King dans le sud des États-Unis qui réalise la synthèse théorique et philosophique entre le christianisme, le marxisme et la pensée de Gandhi. Et c'est à partir de là qu'il met au point ce qui est peut-être la plus grande originalité de son combat, qui est la politique de l'amour. On est loin de toute mièvrerie, de fausse dévotion, de bondieuserie ici. La politique de l'amour est agressive. La politique de l'amour veut mettre à bas le système tel qu'il est. Mais toujours, elle gardera pour principe la non-violence et le refus de blâmer l'autre, mais en revanche, le refus d'accepter les actes injustes de l'autre. Alors bien sûr, le christianisme et la religion sont son recours principal. Mais si on revient à la Boétie, que le problème principal dans un système d'oppression, c'est le consentement des peuples, la religion pose un gros problème. Est-ce que la religion, ça n'est pas justement l'appel au consentement ? Est-ce que celui qui croit, ça n'est pas celui qui accepte un enseignement, et puis singulièrement dans le christianisme, qui accepte d'être soumis à une parole révélée ? Et Martin Luther King a beau être chrétien, religieux jusqu'au bout des ongles, il est parfaitement conscient qu'il y a quelque chose de très ambigu dans la religion chrétienne pour les Noirs aux États-Unis, comme d'ailleurs ailleurs dans le monde. C'est que c'est aussi un appel à la soumission. Les États-Unis sont une nation extrêmement religieuse, extrêmement chrétienne, et pourtant pendant des siècles, la religion a été la justification de l'oppression raciale. Les églises ségrégées, dans lesquelles les Blancs n'étaient pas admis, étaient le lieu où on disait « Oui, c'est vrai, peut-être que Dieu a créé ses enfants à son image, mais enfin, les Noirs, quand même, devront attendre l'au-delà. Ils seront libres, mais un jour, pas tout de suite, les derniers seront les premiers. » Ici, pour l'instant, l'Église, l'ordre religieux, c'est celui des Blancs. Et dans un de ses textes les plus célèbres, « Lettre écrite de la prison de Birmingham », Martin Luther King, le pasteur, dira « J'ai souvent tellement honte de l'Église chrétienne ». L'Église chrétienne a tellement été corrompue, compromise dans le racisme et l'injustice qu'il est parfois difficile pour moi de me dire chrétien. Il y a donc un sens critique terrible pour ce pasteur, consistant à dire que ce qu'il a fait, l'endroit qu'il a vu naître, l'Église, est le lieu même de la compromission. Il est conscient que le christianisme est à la fois le pire des poisons et peut-être le meilleur des remèdes. Et c'est pour ça qu'il a eu besoin d'aller chercher ailleurs, en dehors du christianisme, les éléments qui palliaient à cette théorie religieuse qui ne donnait pas la liberté aux Noirs. Pour comprendre la politique de l'amour selon King, il faut comprendre, et lui-même l'explique, qu'il existe trois formes d'amour, et il revient aux Grecs. Les Grecs, en effet, distingue l'amour selon trois catégories. Le premier, c'est Eros. Eros, c'est l'amour romantique, l'amour charnel, c'est celui du désir qu'on éprouve pour une autre personne. Cet amour-là n'est pas celui qui intéresse King. Il y a une autre forme d'amour, c'est l'amour philia, celui pour mon frère, l'amour fraternel, l'amour pour celui qui me ressemble, mais qui est un amour qui exige la réciprocité. J'aime mon frère parce qu'il est mon frère, mais inversement, lui-même aussi. Et il y a un dernier amour, et c'est cet amour-là qui guide la pensée de Martin Luther King. C'est l'agapé. A-G-A-P-E. L'agapé, c'est cet amour inconditionnel, cet amour absolu pour l'autre parce qu'il est membre de l'humanité. C'est cet amour qui ne demande rien en retour. Et cet amour-là, si on n'est pas capable de l'avoir, on ne peut pas pratiquer la révolution non violente. C'est un amour qui est capable de dire « je t'aime et je te pardonne et je ne te déteste pas. Je ne te ferai pas le cadeau de ma haine, même si tu me tues, même si tu tues ma famille. Ta vie est digne, même si tes actes sont diaboliques. Ta vie compte. Je te fais la dignité de te reconnaître comme membre de l'humanité. » C'est ça l'agapé. Et seuls les forts en sont capables. C'est pour cela que Martin Luther King, pendant la presque décennie de son combat, organisera en permanence des séminaires pour apprendre aux gens la non-violence, parce que ça n'est pas inné. Les Noirs américains, après des siècles d'oppression, de lynchage et de brutalité, ne sont pas naturellement enclins à aimer les shérifs blancs, à aimer le Ku Klux Klan, à pardonner. Ils sont comme nous tous. Ils ont plutôt envie de se venger. Et la priorité de Martin Luther King pendant tout son combat sera d'expliquer la non-violence, de former, d'entraîner à la non-violence. Car seul quelqu'un d'entraîné, pas seulement, il ne suffit pas d'avoir la foi, quelqu'un d'entraîné, quelqu'un qui comprend cette métaphysique, peut devenir véritablement un révolutionnaire. Alors il y a plusieurs problème philosophique avec la politique de l'amour et avec cette idée de l'agapé, et je fais une petite incise pour évoquer les travaux de Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur qui a travaillé lui aussi sur la notion de justice et d'amour et de politique, et qui dira qu'il y a un problème finalement, c'est que on ne peut pas vouloir la justice avec l'amour, avec cet amour-là, puisque si cet amour agapé est un amour inconditionnel qui ne demande rien en retour, ça ne se marie pas bien avec la justice. Parce que qu'est-ce que la justice, si ce n'est la demande de réciprocité ? La justice n'est-elle pas le fait que chacun demande ce qui lui revient ? C'est-à-dire une part égale ? C'est-à-dire un retour ? Or, ça n'est pas ce que dit Martin Luther King. Et donc il y a tout un travail philosophique chez Paul Ricoeur pour arriver à l'idée que si il est possible d'obtenir amour et justice, alors Paul Ricoeur parlera lui d'une économie du don, alors évidemment dans cet amphithéâtre Lévi-Strauss, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Pour Martin Luther King, il y a une possibilité pour réconcilier amour et justice. Pour lui d'ailleurs, ces deux termes sont indissociables. L'amour, c'est l'intention de la justice. L'amour, c'est le pouvoir qui me permet d'espérer la justice. Et la médiation, pour lui, ça n'est pas le don, mais l'idée de la réconciliation. L'idée de la rédemption et du fait que je dois considérer que la justice n'est possible qu'une fois qu'il y a réconciliation de celui que je me refuse toujours avec celui que je me refuse toujours d'appeler mon ennemi. Cela suppose le pardon, bien sûr. Mais cela suppose aussi de comprendre que l'oppression, la violence et l'injustice avilissent l'autre tout autant que moi. Le blanc, le policier blanc qui va tirer 15 coups de feu, comme c'est le cas, on en voit les images en ce moment dans toutes les grandes villes des États-Unis sur un clochard noir qui n'aura rien fait, si ce n'est d'avoir le tort d'être noir. Le système qui crée ça, elle est avilissante, autant pour le policier blanc que pour la victime noire. C'est ça que dit Martin Luther King. Et c'est ce qui lui permet d'articuler l'idée de l'amour et de la justice. Si je reconnais cette parité dans la justice, le fait que nous sommes tous co-responsables de ce qui nous arrive, alors je peux obtenir la réconciliation et ce qui est son grand concept, celui de la communauté bien-aimée. Pour Martin Luther King, la révolution, ce n'est pas seulement que les Noirs obtiennent le droit de vote. Ce n'est pas seulement que les Noirs américains soient des citoyens reconnus comme les autres. C'est que le monde entier devienne ce qu'il appelle une maison universelle selon le principe de la communauté bien-aimée. Et cela passe par une forme de transcendance, en effet. Parce qu'il y a un autre problème avec l'amour si on pense la société avec ce terme-là. Rousseau nous apprend que ce qui fonde une démocratie, c'est l'amour des lois. Si je n'aime pas les lois, si je ne parviens pas à transférer mon amour de moi-même pour l'amour des lois, alors il n'y a pas de société qui vaille. Plus près de nous, John Rawls, qui est probablement le plus grand philosophe du politique américain de ce siècle, et qui écrira sa théorie de la justice deux ans à peine après la mort de Martin Luther King, définit la justice comme le fait qu'une société peut atteindre cet état d'égalité si, au moment où on définit ce que seront les règles qui régiront notre système, nous choisissons, derrière ce qu'il appelle un voile d'ignorance, c'est-à-dire sans savoir ce que nous deviendrons dans la vie, nous décidons d'institutions qui seront favorables aux plus puissants comme aux plus déshérités. Nous décidons ensemble, et je ne sais pas moi-même si je serai un puissant ou si je serai un misérable, pour reprendre les mots de La Fontaine. Donc forcément, je vais choisir des institutions égalitaires. De la même façon, dit Rousseau, la raison pour laquelle j'aime les lois, c'est parce que je me reconnais dans ces lois. J'ai participé à leur élaboration. Oui, mais dira Martin Luther King, qu'en est-il si les lois de mon pays ont été écrites sans moi? Qu'en est-il si ceux qui ont écrit la Déclaration d'indépendance, tous les hommes sont nés et demeurent libres et égaux en droit, doués par le Créateur de droits inaliénables, ce qui est écrit dans la Constitution, dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, si je n'ai pas été invité ce jour-là pour écrire, qu'est-ce qui se passe si ceux qui ont écrit ces mots-là écrivaient d'une main la Déclaration d'indépendance, ses grands principes, et de l'autre géraient leur plantation dans laquelle les esclaves faisaient prospérer leur richesse? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la clé, c'est de mettre au point une démocratie insurgente. C'est d'exprimer son dissensus, son dissentiment. Exprimer que l'on n'est pas d'accord. Reprendre cette idée de la désobéissance civile. À une condition, la non-violence, et aussi que j'accepte la justice. Et la justice au-dessus des lois, parfois au mépris des lois, mais parfois j'accepte les lois. La transcendance, c'est de considérer qu'il existe des lois qui sont injustes, ce que saint Augustin lui avait appris, et que dans ce cas-là, c'est un devoir de désobéir. Lorsque la loi dit que les Noirs doivent aller à l'arrière du bus, ce sont des lois injustes et j'ai le droit de ne pas les respecter. Mais lorsque je refuse de me lever, lorsque la police vient me chercher et me dit « Monsieur », d'ailleurs elle ne dit pas « Monsieur », elle dira « Toi, en me tutoyant, lève-toi et va dans le fond du bus, là où est ta place », je désobéis, mais j'accepte ensuite la sanction, j'accepte d'aller en prison. Je paye pour le prix de ma désobéissance. Et je provoque le système. Et ce seront les grandes phases du combat de Martin Luther King qui déclinera sa politique de l'amour selon trois modalités. La traduction historique de cette vérité, de ce principe de la politique de l'amour, c'est tout d'abord ce qui commence à Montgomery, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui se poursuit tout d'abord avec l'idée que c'est au niveau local qu'il faut s'organiser. Dans une forme de résistance passive, on refuse de prendre le bus, et puis on refuse d'aller dans les magasins où les Noirs ne sont pas employés ou bien dans lesquels ils ne sont pas acceptés. Ça, c'est la première phase. Et puis ensuite, à partir de la fin des années 50, il s'agit de déployer ce combat à l'ensemble du sud des États-Unis en s'organisant et en commençant quelque chose comme une disruption, comme une action directe, comme une provocation. Et là, il faut bien dire qu'une fois de plus, Martin Luther King a été poussé à faire évoluer sa pensée à cause d'autres que lui. Et là, ce sont les jeunes étudiants noirs du sud des États-Unis qui s'organisent de leur côté et qui poussent d'une certaine façon la politique de Martin Luther King dans ses retranchements. Parce qu'en effet, lui disent-ils, et Martin Luther King en a toujours été conscient, il y a un problème dans le fait de faire de la politique avec de l'amour. C'est que bien souvent, l'amour, ça devient l'amour du chef, l'amour d'un leader. Et il est vrai que lorsqu'on lit les témoignages et qu'on étudie les archives, on voit que bien souvent en Inde, par exemple, les satyagrahis disaient qu'ils suivaient le Mahatma par amour pour lui. Et Martin Luther King lui-même était une figure charismatique. Les gens étaient attachés à lui. Cet homme qui tant de fois a survécu aux tentatives de meurtre, cet homme qui parlait de cette voix messianique et prophétique, de l'avenir du peuple noir, il était une idole. Et ça, les jeunes étudiants du Sud, ils n'en veulent pas. Ils sont jeunes, ils sont indépendants, ils sont rebelles, ils ne veulent pas obéir à un chef. Et Martin Luther King lui-même savait que c'est toujours très dangereux d'aimer un chef, parce que c'est la porte ouverte à, une fois encore, le consentement des peuples qui vont suivre aveuglément un chef. Et c'est peut-être l'une des principales sources de son tourment toute sa vie. Martin Luther King était un homme très tourmenté, dépressif, on a dit, parce qu'il se disait toujours que la charge était trop lourde, qu'il ne voulait pas recevoir tout cet amour, cette idée de la personnalisation, il ne voulait pas incarner la lutte. Il voulait que ce soit les peuples, les masses, qui elles-mêmes se voient comme des agents du changement social. Et pourtant, il ne pouvait pas empêcher le fait qu'on soit attaché à lui. Donc il a dû repenser cette idée de l'amour en prenant en compte, en effet, l'idée que ça n'était pas un amour pour un, pour le chef, mais que c'était un amour, celui de la communauté bien-aimée, celui pour l'humanité tout entière qui devait mener et guider la révolution. La deuxième phase, donc, de cette politique de l'amour qui est suscitée par cette jeunesse qui le met au défi de changer un petit peu sa réflexion et ses modalités de combat, c'est donc l'action directe. Et à partir du début des années 60, les Noirs aux États-Unis décident, toujours en étant non-violents, parce qu'ils accordent cela à Martin Luther King, de provoquer le système, d'aller dans tous les endroits où c'est interdit, d'aller s'asseoir dans les restaurants qui leur sont interdits, d'aller se baigner dans les piscines dans lesquelles ça leur est interdit, d'aller prier dans les églises dans lesquelles ça leur est interdit, de subir les coups, les crachats, les injures, et d'aller en prison. Et de remplir les prisons tant et tant et tant et tant qu'à la fin, il n'y a plus de place dans les prisons et que le système est saturé. Et à un moment, ils iront même à Birmingham jusqu'à laisser les enfants remplir les prisons. Et puis la dernière phase, c'est la phase qui suit la victoire, ce qu'on a appelé la victoire des droits civiques, c'est-à-dire le fait qu'en 1964 et 1965, après une marche gigantesque sur Washington, la capitale des États-Unis, où une fois de plus, près d'un quart de million d'Américains, principalement noirs, mais pas seulement, dans la non-violence, les militants de la justice raciale ont chanté, discouru, occupé l'espace, alors que l'armée, Kennedy avait demandé à l'armée de circonscrire l'endroit, parce qu'on se disait, tant de Noirs au même endroit, ça va forcément dégénérer en émeute. Eh bien, sans la moindre violence, un quart de million de militants sont venus écouter Martin Luther King donner l'un de ses plus célèbres discours, qui s'appelle « J'ai fait un rêve ». Et dans les mois qui ont suivi, le pays a enfin écouté la demande de ses militants après des siècles de combat, après des décennies de désobéissance et de dissensus. Le président des États-Unis, Lyndon Johnson, signe la loi sur les droits civiques et la loi sur le droit de vote, qui donne enfin aux Noirs une partie de ce qu'ils demandaient, ne plus être ségrégés dans le Sud, mettre fin à cet apartheid américain et pouvoir voter enfin. Ils le pouvaient en théorie, dans les textes, mais ils en étaient privés par toutes sortes de diableries administratives que les gens du Sud leur imposaient pour qu'ils ne soient jamais vraiment des citoyens. Ils obtiennent ça, c'est une victoire formidable, mais ça n'est pas suffisant. Et la dernière phase, la phase de la désobéissance civile la plus radicale de la vie de Martin Luther King, dans laquelle s'inscrit son principe essentiel qui est la politique de l'amour, c'est de s'exprimer au nom des Noirs, mais comme si les Noirs étaient une avant-garde éclairée de l'humanité tout entière, contre ce qui est aux sources même de l'oppression. Une fois de plus, je ne blâme pas celui qui me donne un coup, Je ne blâme pas le gouvernement américain, ou je ne blâme pas le président des États-Unis, ou même le policier raciste. Je blâme le système qui sous-tend toutes ces institutions et tous ces comportements. Et Martin Luther King portera sa parole dans une forme de dénonciation extrêmement radicale des trois fléaux majeurs des États-Unis, mais aussi d'une grande partie de l'humanité, le capitalisme, le racisme et l'impérialisme. Ces trois maladies de l'Amérique, dit-il, sont celles qui sont non seulement le fruit du racisme contre les Noirs, mais ce sont les causes d'un racisme qui unit dans le même lot d'infamie et d'humiliation non seulement les Noirs américains, mais les populations humiliées du monde entier, les peuples colonisés, les Vietnamiens qui, à l'heure où ils parlent, sont bombardés au napalm par les avions américains. Et donc, pour lui, il ne peut y avoir de communauté bien-aimée, et c'est ce qu'il avait dit dès 1964, lorsqu'il reçoit le prix Nobel de la paix, qu'à partir du moment où on comprend que le combat des Noirs américains n'a de sens que s'il parle à un Réunionnais, qu'il parle à un Italien, qu'il parle à un Palestinien, et qu'il comprend qu'il y a une forme d'humanité qui doit s'unir dans quelque chose qui serait une émancipation collective à la condition que capitalisme, racisme et impérialisme soient abolis. Je voudrais vous lire un texte écrit de Martin Luther King qui est, je pense, une très bonne explication de son caractère visionnaire et en même temps de la force de ce qu'il appelle la communauté bien-aimée. Tous les hommes sont interdépendants. Chaque pays a hérité d'un vaste trésor d'idées et d'œuvres auxquelles les vivants et les morts de tous les pays ont contribué. Que nous le sachions ou non, nous sommes tous perpétuellement en déficit. Nous sommes à jamais les débiteurs de quelque homme ou de quelque femme inconnue. Dès notre réveil, nous trouvons dans notre salle de bain une éponge qui a été produite par un habitant d'une île du Pacifique. Nous utilisons un savon fabriqué par un Européen. Nous buvons un café cultivé par un Sud-Américain ou du thé récolté par un Chinois ou encore du cacao recueilli par un Ouest-Africain. Avant même de partir pour notre travail, nous sommes déjà redevables à la moitié du monde. En réalité, toute vie est interdépendante des autres. L'agonie des pauvres appauvrit les riches. L'amélioration du sort des déshérités enrichit les nantis. Nous sommes fatalement le gardien de notre frère, puisque nous sommes son frère. Tout ce qui affecte l'un d'entre nous affecte indirectement tous les autres. La raison pour laquelle j'ai choisi ce passage est, d'une part, je suis frappée par la prescience de Martin Luther King, qui a déjà l'intuition, nous sommes à la fin des années 60, de ce qu'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, la globalisation, l'idée que chaque jour, dans chacun de nos gestes, sans nous en rendre compte, nous sommes en relation d'une certaine façon avec celui qui a produit notre savon, notre café, nous sommes reliés aux quatre coins du monde, mais aussi parce que cette idée de la dette mutuelle, cette idée que nous avons quelque chose comme un compte perpétuellement en déficit vis-à-vis des autres, c'est quelque chose d'ailleurs que l'on retrouve, je parlais de Paul Ricoeur dans la pensée du philosophe français, mais également qui est au cœur de ce que serait une communauté collective. L'idée d'une solidarité, d'une fraternité, de ce que serait une démocratie fondée non pas sur moi, mais sur le nous. L'idée de dépasser la nation, dépasser l'idée même de fraternité, parce que derrière l'idée de fraternité, il a l'idée que j'aime mon frère parce qu'il me ressemble, et que par conséquent, si j'aime celui qui me ressemble, je n'ai pas d'appétit, de curiosité, d'amour pour celui qui est différent, irréductiblement différent. La femme, si je suis un homme, le noir, si je suis un blanc, l'africain, si je suis européen, etc. etc. Et c'est un problème parce que ça réduit notre champ, et c'est une négation même de l'idée d'humanité. Donc les communautés bien-aimées, c'est ça qui permet véritablement la révolution. Et l'on retrouve Saint-Augustin. Saint Augustin qui disait que dans la cité de Dieu, il y avait deux types de cités, mais que la véritable république était celle dans laquelle une multitude de gens se défait de son amour immédiat pour les choses ou pour l'autre, pour aimer Dieu. Et pour King, c'est une multitude de gens qui vit dans l'amour pour ce que nous avons de commun. L'idée d'un bien commun. Évidemment, la COP 21 commence la semaine prochaine, donc on peut penser que la planète, par exemple, est notre bien commun. Mais l'humanité qui peuple cette planète est notre bien commun. Nous en sommes co-responsables tous ensemble. Martin Luther King a été un des premiers à penser cela. Mais qu'on n'est pas dans la contemplation, dans la simple idée qu'on aime l'autre parce qu'il est l'autre et donc on célèbre le multiculturalisme et l'amour de la différence. Non, on est dans une quête révolutionnaire. Visiblement, le monde n'est pas celui dans lequel l'humanité compte. L'amour, c'est ce qui pousse à rassembler ce qui est séparé. Et donc, tant qu'il y a des lignes de démarcation, tant qu'il y a des injustices, il est de mon devoir d'organiser le renversement de l'ordre établi par cet amour, par cette dissidence et par ce refus absolu de la violence. Pour conclure, je voudrais faire deux choses. Vous parlez de la pérennité de la pensée de Martin Luther King dans la culture, et puis vous lire un dernier passage qui incite justement à cette urgence de relire Martin Luther King, cette urgence qui était la sienne, l'idée selon laquelle il faut cesser de penser que chaque période est unique, mais qu'en même temps, derrière tout révolutionnaire, il y a l'idée que le changement doit advenir maintenant, et que c'est la grande erreur du christianisme d'avoir dit « un jour viendra ». Un jour, les derniers seront les premiers. Dans la culture américaine et dans la culture noire américaine, pour ceux d'entre vous qui la connaissent et qui l'aiment, il est une femme qui occupe une place extrêmement importante, qui s'appelle Toni Morrison, qui est une romancière remarquable, qui a eu le prix Nobel de littérature. Et si l'on regarde l'ensemble de ses romans, il y a deux livres qui portent la trace de cette éthique de l'amour. Le premier s'appelle « Beloved », « Bien-aimé », et l'autre s'appelle « Love ». Et là encore, on n'est pas dans la mièvrerie, dans les bons sentiments ou la fausse dévotion. On est dans l'idée que la résilience qui a permis aux Noirs américains de tenir des siècles d'esclavage, d'oppression et d'humiliation, c'est peut-être une capacité particulière à aimer non seulement les siens, mais aussi à envisager un dépassement de l'amour des siens pour obliger l'autre finalement à m'aimer ou en tout cas à lui dire que c'est possible qu'un jour il y parvienne. Au-delà de la littérature, je voudrais vous rappeler quelque chose que vous avez sans doute suivi. C'était en juin dernier, il y a quelques mois, dans une église de Charleston, en Caroline du Sud, où un jeune suprémaciste blanc, un jeune homme, est entré dans une église avec une arme à feu. Cette église était une église noire, communautaire, où les Noirs priaient et chantaient, et il a ouvert le feu, et il a tué 9 personnes. Alors évidemment, il y a tellement d'assassinats de Noirs aux États-Unis qu'on finit par trouver que c'est quelque chose de banal, mais ce meurtre terroriste-là a beaucoup choqué. Barack Obama s'est rendu dans l'église, il a chanté un Negro Spiritual, et ça a énormément frappé les esprits. Et je voudrais dire que ce qui s'est passé dans cette église, et peut-être vous le rappelez si vous l'avez oublié, est un exemple même de la force et de la pérennité de la parole de Martin Luther King. Comment est-ce que les choses se sont passées? Dans cette église noire où tout le monde se connaît, on est dans un quartier d'une ville du Sud, Les Noirs sont très croyants, ils vont à l'église entre eux, c'est un sanctuaire, c'est l'endroit où ils sont protégés depuis toujours, même si depuis toujours on a brûlé, incendié, rasé les églises noires. Depuis les années 60, plus de 200 églises noires ont été brûlées aux États-Unis. Pourtant, c'est l'endroit où ils sont en sécurité, l'endroit où ils sont entre eux. Et c'était le cas en cet été 2015. Les Noirs étaient là, ils avaient commencé la prière. Et un jeune blanc est arrivé. Personne ne le connaissait. Et il leur a dit, est-ce que je peux venir prier avec vous ? Parce que la politique de l'amour et de l'hospitalité s'est appliquée à cette communauté. Ces gens, tous noirs, qui se connaissaient et qui n'avaient jamais vu ce garçon, ils lui ont dit « Oui, bien sûr, venez. Venez commencer à prier avec nous, au contraire. Plus on est de fous, plus on rit. Et nous sommes heureux que vous veniez partager ce moment-là avec nous. » Et après quelques minutes, ce jeune blanc a commencé à proférer des insultes racistes. Il a sorti son fusil et il a tué 9 personnes. Les survivants et les membres de la famille ont refusé de le haïr. Et lors du procès, on a vu, pas exactement du procès, mais de la confrontation chez le juge, les frères et les sœurs de ceux qui avaient été tués dire qu'ils le pardonnaient. Ils lui pardonnaient parce que peut-être lui faire cadeau de leur haine, c'était beaucoup leur demander, mais aussi parce que ce qui a fait la capacité de résistance de ces Noirs américains, ça a été justement cette capacité à aimer malgré tout. C'est un impératif moral que nous pouvons méditer, même si ça paraît peut-être plus difficile que jamais. Mais je voudrais conclure avec ces mots de Martin Luther King qui tentait d'inscrire cet impératif dans l'histoire et qui écrivait « Nous pouvons supplier le temps d'attendre son passage, mais le temps est sourd au gémissement et passe son chemin. » Les mots trop tard sont écrits sur les eaux blanchies et les débris informes de mains de civilisation. Il est un livre de vie. Excusez-moi. Il est un livre de vie invisible où sont consignées notre vigilance ou notre négligence. La main écrit sans cesse et continue d'écrire. Nous avons encore aujourd'hui le choix entre la coexistence non violente ou la codestruction violente. C'est peut-être la dernière chance qui s'offre à l'humanité de pouvoir choisir entre le chaos ou la communauté. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que je n'ai pas abordées et que vous voudriez évoquer, c'est avec plaisir que je prends vos questions. Il y a une dame ici et un jeune homme.
Merci, bonjour. Je me présente. Excusez-moi. Madame Jacqueline Ullmann, quelle influence, est-ce qu'il y a une influence avec Mandana en Afrique du Sud? Je pense qu'il y a eu une influence aussi avec Martin Luther King.
Oui, Martin Luther King s'est battu toute sa vie pour la reconnaissance de la... pour la fin de l'apartheid, la reconnaissance des Noirs en Afrique du Sud. Gandhi est évidemment la grande chose qui les unit. Mandela a essayé autant que possible de demeurer non-violent, même s'il a dû se résoudre avec l'ANC à au moins la violence sur les biens matériels. Et on a beaucoup parler des voyages que Martin Luther King avait fait en Afrique du Sud. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont beaucoup de points communs. On peut penser au rôle de la religion avec le pasteur Albert Luthuli, qui a évidemment joué un très grand rôle. Mais peut-être que le point commun le plus grand entre ces deux hommes, c'est cette phrase qui a été prononcée par Mandela, mais qui aurait vraiment très bien pu être celle de Martin Luther King, qui disait « Je ne suis pas un saint. Surtout ne me dites pas que je suis un saint. Je suis un pécheur, mais je suis un pécheur qui essaye chaque jour. » Et donc il y a chez ces deux hommes une profonde conscience de leur finitude et de leur imperfection. Mais oui, en effet, il y a une forme de filiation dans la quête de la révolution non-violente entre Gandhi, Mandela et Gandhi, King et Mandela, même si sur la non-violence, ça a été un petit peu plus compliqué pour Mandela. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de questions sur Obama en général. Il y a toujours une question sur Obama.
Personne n'a dit. Et moi, je voudrais intervenir dans un autre sens.
S'il vous plaît, excusez-moi, dans quel sens. Je ne vous vois pas. Vous pourriez lever la main. Moi. Vous êtes où?
Je suis là-haut.
Ah, tout au fond, d'accord, pardon.
J'ai bien apprécié votre appréciation sur tout le long. Et je vais faire un détour pour voir un peu ce que c'est que l'image de l'autre, mais tout simplement à côté de Martin Luther King. À côté de lui, je mets quelqu'un comme Malcolm X, qui a essayé maintes fois d'éviter à certains moments de sa lutte, de voir quelle a été la conviction de l'amour de Martin Luther King par rapport au combat qu'a mené à côté de lui, quelqu'un comme plutôt la conviction de Martin Luther King face au combat qui a été mené auprès de lui par Malcolm X.
Oui, Martin Luther King et Malcolm X sont présentés souvent comme des frères ennemis, des némésis, comme des opposés absolus. En réalité, ils ont été très complémentaires. Malcolm X a été, lui, plus audible auprès des Noirs pauvres du ghetto dans le nord des États-Unis. Et puis, il a trouvé dans l'islam, en tout cas tel que professé par Nation of Islam, c'est-à-dire cette branche très américano-américaine de l'islam, un vecteur qui permettait de dépasser cette contradiction dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le christianisme aux États-Unis, c'est quand même la religion des Blancs. Et donc, pour un certain nombre de Noirs radicalisés, le christianisme, c'est la religion qui a transformé les Noirs en esclaves. Donc, Malcolm X, lui, s'est tourné vers l'islam pour avoir quelque chose comme un salut, une spiritualité qui soit propre aux Noirs. Et donc, en effet, comme vous l'avez dit, pendant l'essentiel de leur vie, les deux hommes, Martin Luther King, le chrétien du Sud, et le musulman du Nord, Malcolm X, lui, n'étant pas non-violent, étant un avocat de l'autodéfense, et disant qu'il n'allait pas tuer gratuitement les gens, mais que si on venait le chercher, il se défendrait, et que certainement pas, il ne tendrait l'autre joue, on les a présentés comme complètement irréconciliables et incompatibles, alors qu'en réalité, dans les dernières années de sa vie, il se trouve qu'ils sont tous les deux morts, assassinés, Malcolm X en 65 et Martin Luther King en 68, ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés en particulier lorsque Malcolm X a rompu avec son organisation Nation of Islam et qu'il a entrepris lui-même de faire le pèlerinage à la Mecque. Et il est parti à la Mecque et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que bien à la Mecque, il était au milieu de frères qui étaient blancs, noirs, asiatiques, et que tous le traitaient comme un égal. Et il s'est rendu compte que son idée selon laquelle les blancs étaient tous des racistes et des créatures du diable et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, c'était une idée qui était fausse et qu'il s'était trompé. Et que l'islam véritable, c'était aussi une forme de communauté bien-aimée, qu'il y avait la Oumma, la communauté, et qu'on pouvait dépasser les identités raciales et que par conséquent il y avait une possibilité de réconciliation. Et il est revenu aux États-Unis et il a commencé à prendre contact avec Martin Luther King. Lorsque Martin Luther King était en prison à Selma, il a rendu visite à sa femme Coretta King en lui disant si je peux rendre service, si je peux l'aider dans sa cause, y compris en étant le repoussoir, le mauvais noir qui fera apparaître Martin Luther King comme le bon noir avec lequel on peut négocier, je me porte volontaire. Et quant à Martin Luther King, lui est de plus en plus radical dans sa condamnation de l'impérialisme, dans sa condamnation du capitalisme, dans son identification au peuple colonisé, ce qui était déjà un combat mené par Malcolm X. Donc les deux, à la fin de leur vie, se rapprochent de façon tangentielle de plus en plus, et finalement ce sont des balles de revolver qui auront raison de ce rapprochement entre ces deux grands militants de la cause noire et de la révolution aux États-Unis. Monsieur, je crois qu'il y a un micro qui arrive.
Okay. Bonsoir Mana.
Bonsoir.
Je voudrais juste savoir en fait un point de vue terminologique. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser le mot noir et non pas afro-américain ou africain-américain, sachant que voilà, il y a les textes aussi de Marcus Garvey qui parlent de Back to Africa, retour en Afrique, et aussi ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup d'assassinats de personnes de communauté africaine aux États-Unis, et des choses qui se passent vraiment régulièrement, et aussi voir que ça peut être intéressant pour eux de justement retourner en Afrique, sur une terre qui est très riche, la terre la plus riche du monde, où il y a le plus de diamants, le plus d'or. Pourquoi justement ne pas utiliser ce mot pour encourager les gens à découvrir leur première culture et peut-être créer des ponts pour la reconstruction de ce continent, de la Terre-Mère, quoi.
Ah oui, alors je vais répondre par ordre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi noir américain ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour une raison chronologique. On ne parle d'Africains-Américains aux États-Unis qu'après les droits civiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reconnu que, vous savez, à la fin des années 60 et années 70, les Américains ont découvert la diversité et ont découvert qu'il existait des formes d'oppression, ne serait-ce que dans le langage. Et que la façon dont on nomme les choses, c'est déjà leur donner une certaine forme de reconnaissance. Et donc, on a reconnu que les Américains de couleur, que les Américains noirs avaient une identité particulière, une identité double. Le grand philosophe et historien noir américain W.E.B. Du Bois parlait de double conscience du noir américain. D'un côté, il est américain, mais d'un autre côté, il est noir, donc il a une autre culture, une autre sensibilité, un autre regard. Et donc, à partir de la fin des années 60, on a parlé, pour qualifier les Noirs américains, d'Africains américains. Et aujourd'hui, on parle d'Africains américains. Mais comme je parlais de la période qui précédait, où on utilisait le mot noir, ça m'a semblé convenir davantage. Et d'ailleurs, Martin Luther King lui-même parle de Negro ou de Black. Cela dit, ce que vous dites est très intéressant, le retour vers l'Afrique. Ça a été une option. Ça a été d'abord l'option des Blancs. Les Blancs ont commencé par dire, bon, on a un problème avec ces esclaves, là, on a un problème, ils veulent leur liberté. Après la guerre civile, ils l'ont obtenu, ou en tout cas, ils ont obtenu la fin de l'esclavage. Mais comme on ne peut pas vivre ensemble, parce que ce sont deux races profondément inégalitaires, pourquoi ne pas rapatrier les Noirs en Afrique ? Les Noirs qui avaient été arrachés à l'Ouest africain, pour ce qui est des colonies anglaises d'Amérique du Nord du XVIIe siècle. Et donc il y a eu une société américaine de la colonisation à laquelle Abraham Lincoln, par exemple, le père de l'unité américaine, dont il a fait partie, où on pensait remettre les Noirs sur un bateau pour les ramener en Afrique. Et puis, ce qui était une idée profondément raciste, puisqu'évidemment ils étaient créolisés, complètement intégrés, qui n'avaient plus rien à voir depuis des décennies et des décennies avec l'Afrique. Et puis il y a eu, comme vous le disiez très justement, des militants panafricains qui ont milité pour dire que les Noirs n'avaient rien à faire aux États-Unis. Marcus Garvey, vous l'avez dit, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, pendant un certain temps, Malcolm X, qui disait que les États-Unis étaient tellement racistes jusqu'à la moelle qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de possibilité de vivre aux États-Unis. Et donc, il fallait repartir en Afrique. Marcus Garvey a même créé une société de bateaux et il a fait revenir certains Noirs en Afrique de l'Ouest. En général, ça ne s'est pas bien passé. L'exemple le plus célèbre, c'est la fondation du Liberia, en 1823, qui a été créé par des Noirs américains libres, qui sont partis en Afrique. Or, quel a été le problème avec les Noirs américains revenus en Afrique ? Ben, c'est le problème des diasporas. C'est que c'était des colons. Ils sont arrivés là en disant « c'est notre terre ». Et les Africains qui étaient là avant ont dit ben, « vous êtes bien gentils, mais ce n'est pas parce que vous êtes noirs que c'est votre terre. Nous, on est là ». Donc vous revenez en disant, c'est un petit peu la logique de la Palestine, si vous voulez, vous revenez en disant que ça a été votre terre il y a très très longtemps, mais nous, nous sommes là. Et donc il y a une espèce de situation d'inégalité et d'injustice entre les Noirs américains qui revenaient en prétendant être africains et les Africains qui, eux, avaient toujours été là. Donc ça a été compliqué. Et puis il y a un dernier moment où ça s'est fait. Ça a été après l'indépendance du Ghana, en 1947, première colonie d'Afrique indépendante, hein, le Ghana de Nkrumah. Et Nkrumah a dit « le Ghana doit devenir la terre de tous les Noirs du monde entier ». Et où que vous soyez dans le monde, là aussi, hein, un petit peu la logique d'Israël, où que vous soyez dans le monde, si vous êtes noir, vous pouvez venir, vous serez chez vous. Et il y a un certain nombre de Noirs américains qui, dans les années 60, ont pris leur ticket, leur aller simple, pour le Ghana. C'est intéressant de lire les romanciers américains qui ont fait le voyage, je pense notamment à James Baldwin, et qui sont partis avec plein d'illusions. Certains ont brûlé leur passeport sur la plage, dans une espèce de petite cérémonie rituelle, en disant « back to Africa, on est africain ». Et puis, ils se sont rendus compte que Brooklyn et l'Afrique, c'est pas pareil. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient très, très américains. Et que le métro, la télé, CNN, la musique, que tout ça leur manquait. Et la plupart sont rentrés. Certains, mais vraiment les plus militants, sont restés. Il y en a encore aujourd'hui, encore tous les ans, des pèlerinages. Il y a des compagnies touristiques qui, tous les ans, organisent des voyages de Noirs américains en Afrique et principalement au Ghana. Mais pendant 15 jours, hein. Puis après ils rentrent à Atlanta ou à New York, et voilà. Donc ça, c'est très très difficile, mais il y a eu toujours cette idée-là. Et puis Martin Luther King disait, quand on lui disait « mais pourquoi est-ce que les Noirs rentrent pas en Afrique ?», il disait « mais vous plaisantez, on a construit ce pays. Sans nous, il n'y aurait pas les États-Unis, on a construit jusqu'à la Maison-Blanche, on a fait la richesse de ce pays, à la sueur de notre... La sueur et le sang et les larmes, c'est nous qui, par l'économie du coton, avons créé les premières banques, permis l'industrialisation du Nord. On a fait tout ça, vous voudriez maintenant qu'on parte ? Pas question, c'est notre pays. On est là, on reste. Simplement, on veut notre part. Et c'est ce qu'il dit lors du discours « J'ai fait un rêve », dont tout le monde pense que c'est un grand discours sur l'amour fraternel et les petites filles blanches et les petites filles noires qui vont se tenir par la main et que c'est un truc très mièvre. Pas du tout ce qu'il dit, c'est « Attention, Amérique, vous nous avez signé un chèque. Le chèque que vous nous devez pour ce qu'on a fait pour ce pays. Sans nous, il n'y aurait pas ce pays. » Donc le chèque, là, on voudrait bien l'encaisser. Voilà. Mais ça, c'est la première partie du discours qu'on a oublié. Et on a retenu... J'ai fait un rêve cette nuit d'amour. Free at last, God Almighty, we're free at last. Voilà. Et donc les présidents américains tous disent le discours de Martin Luther King, j'ai fait un rêve, c'est tellement beau, c'est tellement doux, c'est tellement. Ça fait tellement chaud au cœur. Voilà, oui, mais c'est aussi un discours de colère et il faut s'en souvenir. Pardon, monsieur, oui, vous avez patienté.
Merci, vous avez rappelé à juste titre que l'histoire était bonne fille et qu'elle tolérait l'oubli. Et je voudrais avoir votre vision sur quelques événements très récents. Le pape va voir Obama récemment aux États-Unis. Il est aujourd'hui en Afrique. On peut se souvenir aussi en Afrique de personnalités comme Léopold Senghor, de gens qui ont essayé de construire quelque chose. Et vous avez ouvert la conscience sur l'agapé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un trait d'union entre la vision, ou plutôt le principe que Luther donnait de l'agapé, et la relation entre le pape et le président Obama ? Est-ce que c'est un espoir, ou est-ce que c'est une révolution nécessaire ?
Alors... Sur Obama, ça me semble difficile de voir une filiation. Je crois que si Martin Luther King revenait aujourd'hui, il serait terrifié par la politique du président des États-Unis, non pas parce que le président est noir, mais parce que, une fois de plus, ce n'est pas un individu qui change un système. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont encore une nation capitaliste? La dernière fois que j'ai vérifié, oui. Est-ce que c'est encore une nation impérialiste? Obama essaye d'éviter qu'on aille tout de suite trop bombarder la Syrie et l'Irak, etc. Mais oui, il a envoyé des drones et il a fait tuer des gens et les États-Unis sont en guerre dans plus de 90 pays dans le monde. Donc, est-ce que les États-Unis sont encore une nation raciste? Oui. Oui, ça ne fait aucun doute. Donc, le lien entre King et Obama, même si au moment où Obama a été élu, on a dit « Ah, ça y est, le rêve de King est réalisé », non, pas du tout. Un homme ne change pas le système. Et s'il y a un homme noir à la Maison-Blanche, il y a 1 million d'hommes noirs en prison aujourd'hui. Donc, c'est aux États-Unis. Donc, ça donne une idée. Avec le pape François, alors juste pour être parfaitement clair, je ne suis pas religieuse, je ne suis pas chrétienne... Mais avec le pape François, il se passe quelque chose, parce que si vous étudiez ces textes, vous retrouvez dans son appel à la communauté fraternelle, à son idée d'une révolution, dans sa condamnation du capitalisme et de l'impérialisme, quelque chose qui ressemble à une communauté bien-aimée. Et j'ai eu l'occasion de comparer certains de ces textes à ceux de Martin Luther King, c'est frappant. C'est vraiment frappant, c'est quelqu'un qui pense l'humanité en termes globaux, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il y a encore une émancipation à faire, mais qu'elle ne peut être faite que si je dépasse la notion de frontière, d'allégeance, et si je considère l'autre comme mon frère, même si l'autre est différent, même si... Et donc il y a tout un travail sur la condamnation de la guerre, du capitalisme et du racisme comme allant ensemble. Donc il tente de ce point de vue, alors rien n'est parfait, et on pourrait dire bon, sur la reconnaissance de l'homosexualité, etc. Mais l'Église bouge, et c'est quelqu'un qui essaye véritablement de penser en effet l'amour universel au-delà de ce que le catholicisme nous dit. Et il est assez marxiste de ce point de vue. C'est ce qui en fait quelqu'un d'assez intéressant. Et d'ailleurs, il vient d'Amérique latine. Et l'Amérique latine est le grand lieu de ce qu'on appelle la théologie de la libération. Théologie de la libération qui consiste à dire qu'il y a une mission des peuples de couleur consistant à repenser le christianisme pour en faire une force anticoloniale. Et l'un des grands penseurs de la théologie de la libération, qui s'appelait Don Elder, qui était un évêque, disait « C'est formidable, quand je m'occupais des pauvres, on disait que j'étais injuste et que j'étais un saint, et quand j'ai commencé à dire qu'il fallait faire la révolution pour aider les pauvres, on m'a traité de marxiste et de communiste, et subitement, je n'ai pas compris, j'ai comme cessé d'être catholique du jour au lendemain. » Et il y a un petit peu de cette ambiguïté-là chez le pape François. On a encore le temps pour deux questions. Par ici.
Merci. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Luc Pinto Barreto. D'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est merci. J'ai beaucoup aimé votre ouvrage. En le lisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, la vision qu'on avait de Martin Luther King était très caricaturée, tout comme celle de Malcolm X, et que je me demande si demain il y avait une conférence sur Malcolm X ici, est-ce qu'il y aurait autant de monde dans l'amphithéâtre sur Malcolm X ou les Black Panthers. Maintenant, j'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que vous pourriez nous parler du rôle de Coretta Scott King, le rôle qu'elle a joué auprès de Martin Luther King et puis dans la lutte en général. Est-ce que par rapport aussi au FBI et au Contelpro, est-ce que c'est quelque chose qui selon vous est encore actif aujourd'hui? Et ma dernière question, c'est le fait d'étudier l'histoire des droits civiques et de la vie de Martin Luther King, qu'est-ce que ça vous apprend sur notre société à nous, notre société française? Voilà. Merci.
Mais vous n'avez que des bonnes questions. Ça va être compliqué. Première question, je vous en remercie. Coretta King, une femme admirable, une féministe avant l'heure. Martin rencontre Coretta quand ils sont étudiants, il fait sa thèse à Boston. Elle est musicienne, elle veut devenir chanteuse. Chanteuse lyrique, elle a une voix remarquable, elle chante admirablement, mais simplement, comme le pays est très très raciste, elle ne pourra devenir que professeure de chant dans les écoles. Mais elle est très très militante, elle est très très engagée, et ça a été très dur pour elle parce qu'elle voulait être active. Et Martin Luther King, ça reste un pasteur, et donc c'est un homme de son temps, et considère que sa femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et donc ce sera une lutte très, très importante entre eux, mais à la fin de la vie de Martin Luther King, elle aura un rôle très important dans la protestation contre la guerre du Vietnam. Elle participera elle-même, après avoir obtenu sa propre voix, sa propre émancipation conjugale, à aller toute seule dans les manifestations. C'est une femme qui a toujours été... présente vis-à-vis de son mari, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son mari n'était pas exemplaire. Martin Luther King était comme Mandela, ça n'était pas un saint, et parmi les choses qu'il n'était pas, il n'était pas un homme fidèle. Il était absent 300 jours par an, il n'était jamais là, et donc il avait des aventures extra-conjugales, elle le savait. Et ça m'amène à votre deuxième question sur le FBI. Comment est-ce qu'elle le savait? D'une part, parce que les femmes sont très intelligentes, et donc... Elle a compris, et elle a compris aussi qu'elle l'aimerait malgré ça, et qu'il fallait qu'elle soit là, et elle l'est restée, et y compris après la mort de son mari, c'est elle qui a tout fait, qui a continué son combat, et qui a obtenu qu'on obtienne un jour férié Martin Luther King, et qui s'est battu pour un mémorial de Martin Luther King, dont il a fallu attendre 2009 pour qu'il soit inauguré, mais c'est grâce à elle. Mais au-delà de son intuition et du fait qu'elle savait que son mari, sans doute, n'était pas toujours tout seul dans ses chambres d'hôtel le soir, elle le sait parce que le FBI, dirigé depuis le début du siècle par l'un des plus grands racistes de l'histoire des États-Unis, qui s'appelle John Edgar Hoover, avait décidé que les Noirs américains étaient potentiellement des communistes, des traîtres à la nation, des dissidents, et qu'il fallait s'en méfier. Marcus Garvey a été persécuté par le FBI jusqu'à ce qu'il soit arrêté et déporté en Jamaïque. Ce qui est la grande tragédie de la vie de Marcus Garvey, c'est que l'homme qui a défendu toute sa vie le retour en Afrique finira par être déporté par le système judiciaire américain, non pas en Afrique, mais à la Jamaïque. Il ne pourra jamais aller sur la terre d'Afrique. Et pour Martin Luther King, c'est la même chose. Le FBI est persuadé que c'est un agent double, que c'est un ennemi, comme tout noir ou comme toute personne qui réclame la justice un peu trop fort aux États-Unis, c'est un dissident. Et si vous entendez aujourd'hui ce que dit Donald Trump du mouvement des activistes de Black Lives Matter, c'est exactement la même musique. Et donc, ils ont commencé une politique de persécution de Martin Luther King, consistant à lui envoyer des lettres anonymes, notamment une qui lui demandait de se suicider, qui se faisait passer pour une lettre écrite par un noir, qui lui disait: Martin Luther King, tu es une honte, tu es une imposture, la justice saura un jour que tu ne vaux rien, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Et c'est une historienne de l'université de Yale qui a retrouvé l'original de cette fausse lettre dans les archives du FBI il y a quelques années, et on a réussi à montrer que cette lettre avait été écrite par le FBI. Mais l'une des pires choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont mis sur écoute les chambres d'hôtel de Martin Luther King, qu'ils ont pris des photos de ce qui s'y passait, qu'ils ont mis tout ça dans un petit colissimo et qu'ils ont envoyé le tout à Madame King, qui a ouvert la lettre et qui a écouté les bandes et qui a vu les photos. Et donc, voilà, ce qu'espérait le FBI, c'était que ça crée une crise conjugale terrible, qu'il divorce, que le couple soit affaibli, que Martin Luther King soit affaibli, ils ont aussi envoyé le même petit colissimo à la presse américaine pour qu'elle le révèle et qu'on dise: ah bah voyez, ce pasteur qui trompe sa femme, c'est donc bien que c'est un imposteur, c'est donc bien que c'est un menteur, c'est donc bien que c'est un communiste. Et en fait, c'est assez étrange, les journaux n'ont pas considéré que c'était intéressant. Coretta, elle, a gardé la tête haute et a considéré que tout ça, c'était de la diffamation, ou bien est-ce qu'elle a fait semblant de croire que c'était de la diffamation, on ne sait pas. Mais ça n'a pas été plus loin. Pour ce qui est du FBI, ils ont continué leurs activités délictueuses et racistes très longtemps, puisqu'on pense que la protection qui a été donnée à Martin Luther King dans les dernières années de sa vie était pour le moins approximative, et ils ont continué après sa mort à persécuter les Black Panthers, à aller jusqu'à assassiner un militant à Chicago des Black Panthers, et ça a continué ensuite jusqu'à ce que le service d'agence de contre-intelligence, que vous avez appelé de son acronyme COINTELPRO, soit démantelé, et que dans les années 70 Hoover meurt et qu'on réforme de fond en comble le problème. Votre dernière question, c'est peut-être la conclusion du jour, sauf s'il y a une autre question très très urgente, c'est ce que m'apprend le fait d'étudier et d'enseigner l'histoire américaine, une contre-histoire américaine par le regard, le prisme africain-américain. Ça m'apprend beaucoup de choses. Sur la situation française, je ne sais pas, mais sur la possibilité que nous avons tous à penser l'alternative, à penser l'impossible, à penser que les situations d'oppression ne sont jamais irrévocables, à penser que nous avons la capacité de dépasser la haine, le ressentiment et à être meilleur, même si c'est toujours difficile, c'est quelque chose qui me porte. Une fois de plus, je suis la personne la moins religieuse du monde. Mais je trouve dans ce combat admirable qu'ont mené les Noirs et qu'ils continuent à mener aujourd'hui, quand je vois mes étudiants aujourd'hui, ou les étudiants américains qui ont l'âge de mes étudiants à Paris, s'organiser sur le campus de Princeton pour qu'on débaptise une école de droit public qui s'appelle Woodrow Wilson, parce que Wilson était un président des États-Unis hein, au début du siècle qui défendait le Ku Klux Klan. Quand je vois qu'il n'est pas une semaine, puisque toutes les 27 heures un noir innocent est tué aux États-Unis, qu'il n'y a toujours pas d'émeute, on a beau dire qu'il y a des émeutes, moi ce que je vois ce sont des manifestations non violentes, des gens qui manifestent et qui sont gazés par la police, je me dis que l'obstination, la résilience, la patience et la croyance en la justice existent. Et qu'il est possible, face au gaz lacrymogène, aux balles de la police, à l'injustice du système judiciaire, de continuer à penser qu'on peut vivre ensemble, à continuer à être américain, à produire les œuvres culturelles parmi les plus fascinantes qui soient. Que seraient aujourd'hui les États-Unis sans la culture noire américaine ? Et pourtant, on est toujours dans une situation d'oppression. Et pourtant, on est toujours d'une certaine façon dans cette politique de l'amour dont j'ai essayé de parler aujourd'hui, malgré le terrorisme qui, aux États-Unis, porte le visage d'un jeune homme de 20 ans, blanc, dans le Sud, ou d'un policier sous uniforme. C'est aussi cette forme de terrorisme-là qui existe aujourd'hui. Et les Noirs sont capables de dire qu'ils ne répondront pas par la haine, qu'ils ne feront pas le cadeau de leur haine, et à croire à la justice et à se battre pour elle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut nous porter, et que lire la façon dont Martin Luther King a cherché à dépasser les propres limites de toutes nos théories, penser qu'il n'y a aucune théorie qui soit aboutie, qu'il nous reste encore tant à faire, voilà, c'est quelque chose qui donne de l'espoir, qui donne envie, quand on est historien, de continuer à étudier et de continuer à comprendre qu'il y a des paroles qui nous enrichissent. Et puis, quand on est citoyen, militant, ça aide à tenir. Et ça donne un horizon. Voilà, enfin, c'est ce que je veux croire, en tout cas.